Shalom bracha, boker tov lekoulam. Et on revient dans notre étude du Yom Sheni. Et le Yom Sheni, eh bien, comme d'habitude, nous étudions le schéma et ses berachot. Et donc, la semaine dernière, nous avons ouvert notre série d'études sur le schéma. Et on a parlé de ce que voulait dire, de manière générale, cette première phrase du schéma, Shema Israël, Hashem Elenu, Hashem Echad. Avant qu'on puisse rentrer la semaine prochaine dans la première bracha des brachot du schéma, eh bien, il faut quand même qu'on se pose quand même une petite question. Parce que maintenant qu'on a dit et expliqué que le schéma, c'était proclamer l'unité du Créateur, alors au passé, au présent, au futur, comme on a pu le voir la semaine dernière, eh bien, il y a quand même une question qui se pose. Qui se pose, c'est, eh bien, de quel droit peut-on dire le schéma? Le schéma, de manière générale, hein, le schéma et ses brachot. Ça veut dire quoi? De quel droit peut-on dire le schéma? Quelle est la base du questionnement? Eh bien, vous savez, toute la Torah orale, tout le Talmud, va s'ouvrir sur une question. Et oui, la Torah orale s'ouvre sur la question « Mais matai korin et shema be'arvin ?» Eh bien, on serait tenté à la base de comprendre qu'il s'agit ici d'une question purement technique. À savoir, eh bien, à partir de quelle heure on peut dire le schéma la nuit? Très bonne question. Bien sûr, très bonne question. Mais franchement, est-ce qu'on va commencer tout l'enseignement talmudique par une question somme toute assez technique? D'autant plus que le Talmud, ça c'est la question posée par la Mishnah, mais Mata et Korin et Shema Bervin, la première Mishnah dans le traité de Berachot, le problème c'est que le Talmud tout de suite va répondre en disant « Mais enfin, la réponse qui est donnée, Mishat Tzeta Kochavim » Ça aurait été la réponse qui aurait dû être donnée. C'est-à-dire, on aurait dû entendre marquer dans la Mishnah à partir de quelle heure tu peux dire le schéma? Eh bien, à partir de la sortie des étoiles. Si c'était véritablement ça qu'on voulait t'apprendre, c'est comme ça que ça aurait dû être marqué. Tu me demandes une indication temporelle, je te donne une indication temporelle. À partir de quelle heure on peut dire le schéma? À partir de la sortie des étoiles. Seulement, ce n'est pas ce que la Mishnah nous enseigne. La Mishnah nous enseigne, mais matai korin et shema be'arvin, et nous répond, misha'a she'akohanim nichnasim le'echol bitrumatan. À l'heure où les kohanim commencent à manger la terouma. Bizarre. Le Talmud tout de suite dira, mais enfin, je sais que cette heure-là correspond à la sortie des étoiles. Donc pourquoi ne m'as-tu pas marqué la sortie des étoiles? Eh bien, en vérité, nous dit le Talmud, Milta agavorcha kamashmalan. Parce qu'en fait, je voulais t'expliquer autre chose, bederech agav. En d'autres termes, il y a une question purement technique et temporelle de à quelle heure je peux manger, à quelle heure je peux dire le schéma le soir. Oui, nachon. Il y a une question temporelle à laquelle il va falloir répondre. Mais ce n'est absolument pas la question principale qui est posée par la Mishnah. La question principale posée par la Mishnah, c'est « Mais matai korin et shema be'arvin ?» Et j'aimerais que ce soit bien clair. « Mais matai » ne veut pas forcément dire « à quelle heure ?» À quelle heure, cela veut, on aurait plus dit « mi matai ?» Mais « matai » veut dire « depuis quand ?» Mais depuis quand dans le sens « mais de quel droit ?» De quel droit peut-on dire le schéma le soir? En vérité, si on devait traduire la première phrase de la Mishnah, c'est « De quel droit peut-on dire le schéma le soir ?» Mais qu'est-ce que cela représente? Eh bien, comme on a pu le voir la semaine dernière, « Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad », il s'agit de proclamer ici l'unité du Créateur. Proclamer l'unité du Créateur, mais c'est tout un travail, c'est tout un concept. Nachon. Eh bien, ce concept-là, eh bien, on doit se poser la question, est-ce qu'on peut le dire? Pourquoi? Évidemment qu'on peut le dire. D'abord, c'est une mitzvah marquée dans la Torah. C'est une mitzvah marquée dans la Torah. Mais la Torah doit être mise en pratique lorsqu'on rentre en terre d'Israël et que nous sommes maîtres de notre identité. Mais Rabbi Yehuda Hanassi, qui va être, eh bien, celui qui va tout simplement nous rédiger, nous mettre en place, Shisha Sidre Mishnah, la Mishnah, eh bien, Rabbi Yehuda Hanassi choisit de commencer sa classification, son étude, par justement cet enseignement-là. Mais Matai Korin et Shema Be'arvin, Rabbi Yehuda Hanassi vit plus ou moins en l'an 200. C'est-à-dire que Rabbi Yehuda Hanassi vit dans l'époque charnière entre, eh bien, la fin du royaume juif, le début de l'exil effectif, mais également la montée en puissance du christianisme. Nous sommes en l'an 200, on peut admettre que le début de l'exil a véritablement commencé après la guerre de Bar Korva en 135, on est à peine 70 ans plus tard, et à ce moment-là, le christianisme est en train de grandir. Il n'est pas encore la religion impériale de Constantin, mais ça prend déjà une force très importante. Eh bien, face à cette réalité-là, il va falloir répondre à la question, au problème, à la ta'ana, à l'argumentaire proposé par la chrétienté. Nous dit l'Église, mais enfin, vous les Juifs, vous étiez effectivement le peuple élu. Vous étiez effectivement Mishemeyachadim et Shmoshe la Kadosh Baruch Hu. Vous étiez ceux qui prônaient l'unité du Créateur. Certes, à l'époque, eh bien, il y avait les nations du monde qui étaient idolâtres. Et vous, fort de votre identité et de vos connaissances, eh bien, vous avez tout simplement prôné l'unité du Créateur. Vous étiez les véritables représentants de Hachem Echad. Aval. Vous pouviez le faire parce que vous étiez relié à Dieu. Que se passe-t-il si vous n'êtes plus relié à Dieu? Ha! Que se passe-t-il si on n'est plus relié à Dieu? Azmakoé. Comment est-ce qu'on peut être plus relié à Dieu? Eh bien, d'après eux, vous avez fauté. Si vous avez fauté, eh bien, vous vous éloignez du Créateur. Vous ne pouvez plus être légitimement ceux qui prononcent et proclament son unité. Oui, mais attendez, monsieur chrétien. Qu'est-ce qui se passe si jamais j'ai fauté? Si jamais j'ai fauté, eh bien, je fais teshuva. Il fait merde. J'ai fauté, je vais corriger, je fais teshuva. C'est très bien. Le problème, c'est que pour que ma teshuva soit complète, eh bien, je dois faire teshuva et je dois également amener une kapara. Une kapara, c'est-à-dire, eh bien, en français, je dirais, on parle d'expiation, mais de rééquilibrage. Je dois payer, en fait, hop là, excusez-moi, je dois payer pour, eh bien, le traumatisme que j'ai créé dans le monde. Mais que faire si jamais je ne peux plus faire de kapara? Normalement, eh bien, lorsque je fais une faute, le lendemain, je vais amener mon kapara, ou le jour même si j'ai le temps. Mais qu'en est-il d'un Kohen qui aurait terminé son service au Beit HaMikdash à 4h de l'après-midi, qui rentre chez lui et il ramène avec lui à la maison des pommes qui viennent de Neta Revaï, des pommes Bikdusha, des pommes de Touruma. Eh bien, à ce moment-là, il doit les manger en état de pureté. Ma Corée, si en sortant du Beit HaMikdash, il glisse sur une peau de banane et au moment où il touche le sol, sa main se pose sur un lézard mort. Oh ! Sa main étant posée sur un lézard mort, il devient tamé. Il devient donc impur. Il ne pourra pas profiter de ses pommes. Ah ah, que faire ? Eh bien, il doit le soir même, c'est-à-dire à la sortie des étoiles, ou du moins non, à la Shkia, c'est-à-dire au moment du coucher du soleil, il doit aller se tremper au mikvé, ou à la source, ou hein, au fleuve, et à Tzeta Kochavim, il pourra manger de la terouma, même si ce n'est que demain matin qu'il emmènera son sacrifice d'expiation. C'est ce qui va amener le Talmud dire que la kapara lo meakevet, que la kapara n'empêche pas la teshuvah. Pour que le processus soit complet, il faut la kapara, mais si elle n'est pas là, eh bien, ça ne m'empêche pas quand même de faire teshuvah. En d'autres termes, eh bien, par rapport à notre histoire, les chrétiens disent, oui, vous étiez ceux qui pouvaient dévoiler le Créateur, pas de problème. Aval, Abaya, c'est qu'à l'époque, lorsque vous faisiez une faute, Eh bien, pas de problème, vous alliez au Beth Amikdash et Kapara. Mais maintenant que le Beth Amikdash est détruit, vous ne pouvez plus faire teshuva au Beth Amikdash. Ce qui veut dire que c'est fini votre histoire. Vous ne pouvez plus être ceux qui continuent à l'ikro et shema, c'est-à-dire à proclamer l'unité du Créateur. Vous ne méritez plus cela. Réponse du Talmud, Kapara lo meakevet. La Kapara n'empêche pas. C'est vrai, pour l'instant, on n'a pas amené de Misbar Kapara. Eh bien, d'ailleurs, on sait même que peut-être que je ne me réveillerai pas demain matin pour amener mon Korban Kapara. Eh bien, becholzot, tout de même, tu as le droit de manger de la terouma à la sortie des étoiles. En d'autres termes, la Kapara n'empêche pas. La Kapara est nécessaire pour que le processus soit complet, mais elle n'empêche pas de proclamer l'unité du Créateur. La chrétienté a porté atteinte complètement à l'unité du Créateur. Il n'y a pas de plus b'gia ba'ichud ba'achdut que la chrétienté. Rabotai, barou. La chrétienté a dit qu'il n'y avait pas un seul Dieu, qu'il y avait trois. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et même quand ils essayent de se cacher de cela, parce qu'ils ne veulent pas passer pour des idolâtres, alors ils disent « Va'davar nia basar » le verset de Matthieu qu'on retrouve gravé en gros sur la basilique de l'Annonciation à Nazareth. Et la chose est devenue chère, et la parole est devenue chère. En d'autres termes, même si tu dises que le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est le même, il n'empêche qu'ils pensent quand même que Jésus est devenu Dieu. Vadavarni à Bassar. Ainsi, il est évident qu'on ne peut pas parler d'unité du Créateur chez eux. Donc, puisqu'ils ont porté atteinte à l'unité du Créateur, eh bien, ils veulent qu'il n'y ait plus personne qui puisse se proclamer revendiquant ce sera le Dieu unique. Donc, ils disent à Amisraël, ils disent, mais vous n'êtes plus légitime non plus. Amisraël répond, si, Yashanu Kriyat Shema. Kriyat Shema, même pendant l'exil, eh bien, nous pouvons et nous devons continuer à proclamer l'unité du Créateur, même si ça ne se voit pas, même si ça ne se voit pas chez nous dans notre comportement, et même si ça ne se voit pas au niveau de l'international, au niveau du peuple d'Israël. C'est-à-dire, la reine, Zeme Od Meod Meod Rachouf. Shema Israël, Hashem Eloheinu Hashem Echad, Matai, Mishah Shakohanim Nirnasim Leichol Bitroumatan, au moment où les Kohanim commencent à manger leur terouma, c'est-à-dire le soir, c'est-à-dire que la Kara n'empêche pas. Depuis la destruction du Beth Amikdash et ce jusqu'à sa reconstruction, nous n'avons plus de Misbar Kapara, mais nous pouvons tout à fait continuer à être ceux qui sont en contact direct avec Dieu et qui doivent le transmettre aux autres grâce à la teshuva qu'on peut faire si jamais on a fait une erreur qui va nous permettre tout simplement de continuer à être légitime à ce niveau-là pour dévoiler Akadosh Baruch Hu. Alors voilà, alors une fois qu'on a dit cela, il ne reste plus qu'à rentrer dans les berachot officielles du Shema, Kriyat Shema ou Birkotea. Et donc, on va pouvoir commencer. Évidemment, on va pouvoir commencer les berachot. Mais il faut bien se dire une chose. Il faut bien quand même se dire une chose. Il y a, quand on parle des berachot du Shema, il faut bien se rappeler que les berachot du Shema ne sont pas les berachot de la mitzvah. Il y a deux styles de brachot. Il y a les brachot de mitzvah et les brachot de shevach. C'est-à-dire, ici, il ne s'agira pas des brachot de la mitzvah. La mitzvah est de dire Kriyat Shema pourtant. D'accord ? Ah, c'est bizarre. Si la mitzvah de Kriyat Shema, c'est une mitzvah, eh bien, les brachot doivent être également une bracha. C'est pourquoi, en vérité, quand on parle des brachot de Kriyat Shema, il y a trois brachot pour Kriyat Shema Shel Shacharit et quatre brachot pour Kriyat Shema de Arvid. Et nos sages nous ont expliqué que le Seder à brachot, il est Me'akev. Il est là. Oula, j'étais parti dans ma Amida. Que le Seder de brachot n'est pas Me'akev, même si on n'a pas l'habitude de changer l'ordre. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas l'habitude de changer l'ordre? Eh bien, parce qu'il ne s'agit pas ici des brachot de la mitzvah, mais du brachot de shevach. C'est-à-dire que ces brachot-là sont là pour montrer à quel point nous sommes reconnaissants à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, les deux premières brachot du Kriyat Shema, sont là pour ouvrir notre connaissance, notre conscience, notre âme, notre nefesh, Ken, de savoir qu'il y a Yichud Hashem, qu'il y a un seul Dieu, qu'il y a un Dieu qui est un, comme on a dit la semaine dernière et aujourd'hui. C'est-à-dire, la première bracha parle de Yotzer à Meorot, on va y revenir la semaine prochaine, ce nous parle de la nature, la deuxième bracha nous parle de la Torah. Et là, et c'est très important, il faut bien comprendre qu'il y a un lien entre la nature et la Torah. Ce lien, il n'est pas clair, il n'est pas évident. On dit que Hashamaim et Saprim que vod el ou maase yagav yagid agid asira harakia. Donc, nous, Bemet, Akadosh Baruch Hu, ou Yodéa, les saper à l'atmo, il sait s'auto-congratuler, si j'ai envie de dire. Mais où en est l'histoire de nous? Eh bien, de notre côté, Malasot, on nous dit qui Torah Tashem temima, mais Shivat Navesh et tout Tashem Nehemana, vegomer. En d'autres termes, eh bien, Akadosh Baruch Hu, veut qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de Torah Tashem. Pour qu'elle soit Temima Meshivat Nafesh, il faut que quelqu'un s'en occupe. En d'autres termes, il y a Birkat Yotzer Ameorot et Birkat Ahavat Olam. Le lien entre Kriyat Shema, entre la Teva et la Mitzvah, eh bien, c'est peut-être le lien le plus important qui soit. Lama. Eh bien, parce que, nous dit le Rav Kook, si un arbre, Ken, si un arbre existe, alors, eh bien, c'est important de savoir qu'il est vert. Parce que, en vrai, qu'est-ce qu'on s'en fiche de savoir si l'arbre est vert? Mais l'arbre est vert parce qu'il fait partie, eh bien, d'un prisme général dans lequel, eh bien, le vert, c'est la photosynthèse, c'est ce qui va nous permettre de faire l'oxygène, qui va nous permettre de faire pérenner la vie. En d'autres termes, il y a ici un rapport direct entre la Torah, la vie, et la Teva, la nature. C'est exactement de cela qu'on parle, les amis. Si on veut pouvoir, eh bien, se révéler comme étant ceux qui véritablement véhiculent le message de Kriyat Shema, de l'unité du Créateur, alors il faut passer et par Birkat Yotzer HaMeorot et par Bracha de Ahavat Olam. Les deux sont nécessaires pour que la relation entre Torah et Teva, entre Torah et nature, eh bien, puissent véritablement remplir leur rôle de dévoiler Akadosh Baruch Hu. La semaine prochaine, nous pourrons donc rentrer véritablement dans la bracha de Yotzer HaMeorot. À la semaine prochaine!